Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda, en compagnie aujourd'hui d'un invité spécial, Robert Bob Sirois, écrivain de l'Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur et identitaire, mais aussi du Québec mis en échec, un livre qui parlait de la discrimination vécue par les joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey et dans le domaine du hockey plus précisément. Évidemment avec Jonathan Carrero-Benoît. Bonjour Monsieur Sirois, c'est un honneur de vous avoir parmi nous.
Et merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, moi et Jonathan, on a commandé votre livre. Pour le moment, on n'est pas encore en librairie, à ma connaissance, mais on a pu l'obtenir en vous contactant par Facebook et en passant commande auprès de vous directement, c'est bien ça?
Oui, exactement. Avec le COVID, ce qui est arrivé avec toutes les librairies au Québec, c'est que au mois de mars, eux avaient beaucoup de nouveautés qui n'ont pas eu le temps de présenter au public ni de vendre. Alors, ils vont, toutes les librairies du Québec vont liquider, c'est-à-dire vendre ce qu'il y avait au mois de mars au point de vue nouveauté. Et puis, à partir de septembre, mon livre va être dans pas toutes les librairies, mais disons toutes les librairies importantes du Québec, parce que je me publie moi-même cette fois-ci. C'est pas les éditions de l'homme. J'ai décidé de faire comme plusieurs auteurs, c'est-à-dire me publier moi-même.
Excellent. Une décision assez ambitieuse, quand même.
Oui, ben c'est... tu sais, au point de vue financier, les auteurs se font massacrer. Un livre qui se vend 20$ dans une librairie, il te revient au maximum 10%, c'est-à-dire 2$. Quand tu te publies toi-même, le même livre qui se vend 20$, il t'en reste 14$. Une grosse différence. Même ça varie entre 12 et 14$.
OK, c'est une différence assez importante. J'étais pas au courant de cette différence-là. C'est quand même intéressant. On est parti sur une autre tangente au début. Je m'attendais pas à ça. Mais on va quand même ramener les brebis dans l'enclos. Et on va parler de votre plus récent livre. Et si on a le temps, on va parler du Québec mis en échec que j'avais lu quand j'étais plus jeune. Je sais plus, je pense que j'avais 14 ou 15 ans. Hein. Et j'avais bien aimé, avec le fameux bœuf et la grenouille sur la couverture. Et ce nouveau livre-là, contrairement à Le Québec mis en échec, je trouve que vous avez changé votre plume pour être plus constructif, plus positif et vraiment essayer de convaincre les gens que c'est un projet rassembleur. Est-ce que je me trompe?
Un peu. Quand on parle de plume, c'est certain que le livre Le Québec mis en échec avait peut-être un style ou une tendance agressive. Puisque je prouvais par des chiffres et par des statistiques et par des vrais faits qu'il y avait eu une discrimination flagrante avec plusieurs équipes dans la Ligue nationale de hockey. Tandis que là, et puis la conclusion de ce livre-là était bien simple, pour donner de la... Parce que moi, ce que je disais dans le livre, c'est que les Québécois manquaient de visibilité et puis... Pour que nos joueurs aient de la visibilité, ça nous prenait absolument une équipe nationale de hockey junior. C'est tous les pays, toutes les nations qui participent au championnat du monde de hockey junior présentent tous les dépisteurs et gérants généraux des équipes de la Ligue nationale de hockey, parce que c'est un grand rendez-vous pour eux, leurs 23 meilleurs joueurs. Pour ce qui est du Québec, avec Équipe Canada, on en a tout le temps 2, 3, 4, c'est... probablement nos 2, 3, 4 meilleurs joueurs, mais qu'en est-il des 20 autres joueurs québécois qui n'ont aucune visibilité? Alors, je terminais ce livre avec, disons, pour contrer le manque de visibilité des hockeyeurs québécois, peuple fondateur du hockey en plus, ça nous prenait absolument une équipe Québec junior pour compétitionner contre les autres nations de ce monde. Alors, Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur identitaire, c'est la suite de ce livre.
Oui, c'est vraiment un livre intéressant. Je vais laisser Jonathan, qui l'a reçu un petit peu plus tard que moi, commenter aussi.
Ben, effectivement, écoutez-moi, M. Sirois, premièrement, merci de nouveau d'avoir accepté l'invitation. Et bien franchement, le livre, je ne l'ai pas fini au complet pour l'instant. Je vais être très franc. En fait, je suis à peu près je suis presque à la fin, en fait. Mais moi, ce qui m'a vraiment fasciné, parce que c'est surtout, en fait, mon mon domaine d'études préféré, c'est vraiment au niveau des relations internationales. Vous avez amené le sujet d'une façon très enrichissante, je trouve, pour le lecteur, et même juste pour quelqu'un qui s'y connaît très peu en termes de relations internationales, justement, et de sport en général. Et là, moi, personnellement, j'aimerais vous entendre de vive voix. Pouvez-vous nous expliquer de façon tangible sur la scène internationale, ce qu'une équipe nationale québécoise de hockey junior majeur ou juste de hockey professionnel en général pourrait... comment cette équipe-là pourrait faire bénéficier le Québec d'une certaine visibilité?
Ben, c'est une grande visibilité. Vous savez, je vais débuter avec ça. Moi, ce qui me fatiguait depuis... quand j'ai écrit mon livre, ça va être une longue histoire que je vais essayer de faire courte. Quand j'ai écrit le premier livre, Madame Marois était dans l'opposition à ce moment-là. Et j'ai eu un coup de téléphone de Pascal Bérubé environ, je dirais, 2 semaines après la publication du livre pour me demander si j'aimerais bien rencontrer Madame Marois en privé à l'Assemblée nationale, à son bureau. Ben, j'ai dit certainement. Il dit, elle a tout lu ton livre. Il dit même, elle l'a dévoré. Puis elle a des questions à te poser. C'est parfait. Fait que je suis allé à Québec, puis il m'avait dit, apporte des livres pour tous les députés, ils vont tous en prendre. Puis il va y avoir une réunion après ça avec tous les députés du Parti québécois à ce moment-là pour que tu leur expliques comment faire pour avoir une équipe nationale du Québec. Et puis si on a le droit. Alors, je suis arrivé au bureau de Mme Marois, elle m'a très bien reçu. Puis oui, elle avait lu mon livre parce qu'elle avait 2-3 questions très pertinentes. Et le livre, elle l'avait devant elle avec des petits post-it jaunes. Il devait en avoir à peu près 30 de différentes pages. Elle l'avait vraiment lu. Et sa question principale était, Bob, est-ce qu'on peut vraiment avoir des équipes nationales, nous, le Québec? J'ai dit, ben oui. Je lui ai dit, on est reconnu par l'UNESCO comme une nation. Je lui ai dit, au même titre que l'Écosse, au même titre que plusieurs autres nations non souveraines, mais qui sont reconnues par les Nations Unies. Je lui ai dit, depuis ce temps-là, puis merci à M. Harper, depuis qu'on a un siège à l'UNESCO, même si on ne dit pas grand-chose puis on est accompagné du Canada, ça ne change absolument rien. Ils nous reconnaissent comme étant un peuple. À partir de là, j'ai dit, il y a beaucoup de fédérations internationales qui acceptent des nations non souveraines dans leur fédération. Ouais, m'a dit, au hockey, ça a l'air que c'est juste un pays. J'ai dit, écoutez, au hockey, si je me trompe pas, j'ai dit, Hong Kong, qui est pas un pays, qui est un État non souverain, une province non souveraine de la Chine, est accepté dans la Fédération internationale de hockey sur glace, puis je pense qu'il y en a d'autres, là, je n'ai pas commencé à fouiller. Ben, je vais vous donner la chance de fouiller. Elle dit, si je suis élu aux prochaines élections, je vous engage pour rédiger une étude de faisabilité pour la mise sur pied d'équipe nationale du Québec. Puis j'ai dit, pas seulement qu'au hockey, je vais l'ajouter dans tous les sports. Fait que, à partir de là, elle a tenu parole quand ils ont pris le pouvoir, Madame Malavoie, qui était responsable ministre du MELS, m'a contacté, m'a dit que Madame Marois lui avait dit de me contacter. Ça, c'est seulement 3 jours après qu'elle ait été élue, là, après que Madame Malavoie ait été nommée ministre.
On sentait que c'était une priorité pour eux quand même.
Oui. Et ce qui est arrivé, c'est, l'étude de faisabilité, ils l'ont reçue 9 mois plus tard. Et ce que vous voyez dans le livre, c'est en bonne partie basé sur l'étude de faisabilité que je vais rédiger pour le gouvernement du Québec. Ce qui est arrivé avec ça, le PQ a perdu les élections et j'ai su par les gens du MELS, parce que c'est les fonctionnaires qui étaient là, ils ont dit, écoute Bob, la première affaire que le ministre libéral a faite, c'est il a demandé où ce qui était ton document. Et on lui a tout remis les documents, puis ça a été jeté aux poubelles, puis ça a été sorti des ordinateurs. Alors, quand les gens disent que le sport n'est pas politique, Ben, il l'est à l'échelle mondiale. Le Canada s'en sert, tout le monde s'en sert. Alors, je ne sais pas si ça répond très bien à ta question, ce qui arrive maintenant, c'est que la Fédération internationale de hockey sur glace a un règlement d'exception. Ça, les médias vous en parlent pas. Ils vous disent juste, faut que tu sois un pays. C'est faux. Il y a un règlement d'exception que vous avez pu lire dans le livre où les membres peuvent accepter un nouveau membre sous certaines conditions. Et le Québec est le fondateur du hockey. Quand on dit le fondateur, c'est qu'en 1875, l'Université McGill a rédigé les premiers règlements. À partir de là, un sport devient valide quand il est réglementé. Et c'est au Québec que ce sport-là a été réglementé, tout comme le football, le soccer, si vous préférez, a été réglementé en Écosse et le rugby au Pays de Galles. Alors, c'est des raisons pourquoi ces pays-là ont été acceptés, ces nations-là ont été acceptées dans la FIFA au début, parce que c'est ce qu'on appelle un droit d'aînesse. Tu es la nation qui a créé le sport. Juste à partir de là, le Québec peut être accepté par la Fédération internationale de hockey sur glace. Et même M. Facel avait dit à la radio à Montréal, ici avec Jean-Charles Lajoie, il y a 2 ans, 3 ans, qu'il était ouvert à ça.
Donc, autrement dit, le Québec pourrait bénéficier du fait qu'il est, bon, plutôt la nation francophone d'Amérique du Nord pourrait bénéficier du fait qu'elle est la mère fondatrice du sport.
Oui.
Pour qu'on puisse justement proposer le projet à l'Assemblée nationale du Québec.
Exact.
Pour bénéficier justement de cette
visibilité-là, pour moi.
Mais par contre, là, c'est intéressant. Parce qu'on met deux choses l'une en face de l'autre. D'une part, on met le fait constitutionnel canadien et d'autre part, on met le fait des droits internationaux. Est-ce que l'un et l'autre pourraient rentrer en contradiction en temps et lieu?
Écoute, le Royaume-Uni, que j'aime souvent comparer au Canada, bien que c'est une monarchie, mais c'est 4 nations qui forment le Royaume-Uni. Alors ici, au Canada, il y a 2 nations fondatrices, on peut en rajouter une 3e, les Amérindiens, j'ai pas de problème avec ça non plus. Mais à partir de là, si le Royaume-Uni peut s'entendre avec ces 4 nations, c'est quoi le problème au Canada de s'entendre avec... C'est pas l'indépendance du Québec qu'on fait, là. C'est la reconnaissance du Québec comme nation. C'est une porte ouverte sur le monde. On a des maisons du Québec un peu partout à travers la planète Terre qui font la promotion du Québec pour aller chercher des investissements, pour faire connaître notre culture, mais c'est surtout au point de vue financier. Mais la meilleure façon de faire, le meilleur outil pour ces 18-19 maisons du Québec-là à l'international, c'est d'avoir des équipes nationales qui représentent le Québec. À ce moment-là, la planète Terre au complet vont comprendre que le Québec est une nation.
Dans le fond, les équipes sportives, c'est le geste concret qui rend la nation québécoise tangible aux yeux des autres, mais même aux yeux de nous-mêmes pour certains.
Exact. C'est que si on parle de nos immigrants, les nouveaux arrivants, ils arrivent au Québec, pour eux, ils arrivent au Canada. Ils n'ont aucune idée. Écoute, les Québécois savent même pas qu'on est. Plusieurs Québécois ne savent même pas ou n'acceptent même pas qu'on soit une nation. Comment veux-tu réunir et créer un peuple, une vraie nation avec tous les nouveaux arrivants quand un nouvel arrivant, te donner une idée. Je vais te donner un exemple. On fait une demande à la FIFA et puis la FIFA nous accepte. Alors, on a un match de foot au Stade olympique contre, tiens, je veux dire, le Mexique. Et puis, dans le cadre des championnats du monde, du classement mondial de la FIFA. Mm-hmm. Et puis, on est 120e, puis le Mexique est 13e. Je ne sais pas si sont 13e, mais ils sont probablement là-dedans, là, 13 et 20. L'équipe québécoise va être composée de gens du Maghreb, de Russie, d'Haïti, de quelques tricotés serrés, de grec, d'italien, c'est-à-dire de toute notre diversité. Ces gens-là, le petit grec qui joue de 21 ans, qui a fait l'équipe Québec, mais toute sa communauté va en être extrêmement fière. Ils vont se présenter au stade olympique avec leur drapeau du Québec et leur drapeau grec. Même chose pour les Italiens, même chose pour les Haïtiens. Et qu'on gagne ou qu'on perde, ils vont tous être là, fiers qu'un des leurs représente leur nouvelle nation, leur terre d'accueil. C'est comme ça qu'on crée une nation. Il n'y a aucune autre façon de le faire. Mandela l'a fait en Afrique du Sud, il a réuni une trentaine de tribus qui ne voulaient rien savoir de son pays. Ils se sont tous mis derrière eux à la Coupe du Monde de rugby. Alors, il n'y a pas de méthode autre que ça. On peut parler de laïcité, on peut parler de loi, on peut parler de toutes sortes de choses. Un item que tous les nouveaux arrivants comprennent, c'est le sport. Mets un ballon sur le terrain qui vient d'Amérique du Sud, qui vient d'Afrique, qui vient d'Asie. Ils vont tous jouer avec le ballon puis ils vont devenir tous copains ensemble.
Autrement dit, c'est nécessairement un moteur d'interculturalisation. Vous l'avez très bien dit, là, on prend la multitude québécoise et on l'intègre à un système où tout le monde se sent bien chez soi.
Exact, ils se sentent chez eux. Écoute, dans le Parc Extension à Montréal, c'était un quartier avant, surtout de Grecs et d'anglophones quand j'ai grandi, moi. Et puis, il y avait des stades de baseball un peu partout dans les parcs. Maintenant, il n'y a plus un stade de baseball, c'est des stades de cricket. Cricket est le quatrième sport au monde, les gars. Et pourquoi qu'il y a des stades de cricket? Parce que les gens qui habitent ce quartier-là, ils sont tous en provenance soit des Indes, du Pakistan, des alentours, et puis ils se retrouvent chez eux là-bas, créent leur propre sport. Vous voyez, la première chose qu'ils font, là, c'est pas apprendre le français, c'est pas faire ci, faire ça, c'est créer leur propre sport et se sentir chez eux. Bon, il y a un peu plus de 1000 membres dans la Fédération québécoise de cricket. Et puis, d'après le président de la Fondation, ils ont d'excellents joueurs dans les jeunes qui poussent, qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et imagine si on avait une équipe Québec de cricket pour participer dans les championnats du monde. Peut-être qu'on serait 20e, 30e, 40e, 50e, je m'en fous. Mais imagine la fierté de ces gens-là qui viennent du Pakistan ou qui viennent, qu'ils soient des Sikhs ou qu'ils soient des Hindous, participer dans un match de championnat du monde contre leur pays d'origine, contre l'Irlande ou contre l'Australie, avec le fleur de lys sur eux, d'appartenance à notre nation, devient automatique, les gars.
C'est la cohésion. On crée un lien, tu sais, par le sport.
C'est ça. Fait que le sport, c'est pour ça que le livre s'appelle « Équipe nationale du Québec », un projet rassembleur parce que ça rassemble les gens, et identitaire parce que ça crée l'identité d'une nation. Que les participants, comme en athlétisme, les gars, le Québec en athlétisme, 80% de nos athlètes vont être des gens en provenance de l'Afrique ou d'Haïti. Parce que on sait tous que si on regarde les compétitions d'athlétisme à travers le monde, plus de 70% des athlètes sont noirs. Parce que physiquement, puis là, il y a des gens qui m'ont dit, hey, c'est royal, tu pousses, mais on le sait, là, on va arrêter de jouer aux vierges offensées. Les noirs, la grosse discipline pour eux, c'est l'athlétisme. Alors, moi, une équipe Québec d'athlétisme qui participe d'un championnat du monde, ou une Coupe du Monde, n'importe quoi, je le sais qu'elle va être à 70, 75 % noire. On n'a qu'à aller au centre Claude Robillard à Montréal. Ils sont tous là. Saut en hauteur, 100 mètres, saut en longueur, nomme-les. Ils sont tous là. Quelle fierté pour eux de faire partie de notre équipe nationale.
Juste à penser aux coureurs marathoniens. Tous les records viennent du Kenya ou presque parce qu'ils ont des programmes d'entraînement, ils ont une culture de la course et du marathon. C'est pas une question raciale ou quoi que ce soit. J'ai plus l'impression que c'est il y a une culture sportive. Il y a une culture que le sport, justement, c'est positif. Ça, et même nous, tu sais, je veux dire, toutes les nations semblent avoir ce côté-là. Il y a une culture où on veut que nos enfants fassent du sport parce que c'est quelque chose qui dépense de l'énergie de manière positive et créatrice. Et donc, en fonction du pays où on est, on joue un sport différent. Les États-Unis jouent beaucoup au basket, au football américain. En Europe, c'est beaucoup de football traditionnel, le soccer, si on préfère. Et nous, ici, au Canada et au Québec, ben, Boswell, il neige 6 mois par année. Fait qu'on a fait du hockey.
c'est enfin ça. Mais les autres sports, il y a beaucoup de participants aussi. Alors, pour moi, et vu qu'il y a tellement de mythes véhiculés par les médias, puis je les comprends, les médias, la majeure partie d'eux autres ne font plus aucune recherche, puis ils disent « Ah, c'est roi ou n'importe qui parle d'équipe nationale, ben tu rêves, on n'est pas un pays. » Wow, arrêtez, là, il y a 35 nations non souveraines comme nous. Hey, Gibraltar, une équipe nationale dans le soccer. Ils
sont quoi, 35 000, là?
Une cinquantaine de mille. Le Groenland sont 55 000, les gars. Ils sont membres de la Fédération internationale de handball. Et puis, en 2006, ils ont participé au championnat du monde parce qu'ils étaient dans les 16 meilleures nations au monde.
Ça se prend bien.
Et puis, l'Islande dans l'Euro. Le dernier Euro qui se sont rendus en quart de finale ou en demi-finale.
Mais c'est un pays, c'est pas une nation non souveraine.
Grosse population pour être bon, tu sais.
Ah non, mais le point que je faisais, c'est que le Groenland, c'est un territoire d'outre-mer, un département d'outre-mer du Danemark. Fait qu'ils ont joué ils étaient en 8e de finale contre le Danemark. Ils ont battu le Danemark. Il n'y a pas de guerre mondiale. Il n'y a pas de guerre civile qui est partie entre le Groenland et puis le Danemark. Ils n'ont pas pris le bateau de Pékin pour aller se battre avec les... Non, mais à quelque part, faut être réaliste avec ce qui se passe dans la vie. Bon, est-ce que le Canada va aimer ça? Non.
Ben, justement, sur cette question-là, je me permettrai de vous relancer. Parce que plus tôt, vous avez dit quelque chose qui est quand même rentré dans ma tête. Vous avez mentionné le fait que Harper, ben, je crois que c'était en 2006 de mémoire, a officialisé le statut de nation pour le Québec. Maintenant, moi, je me permets la question, hein, j'ose le faire. Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait aider en ce sens le Québec à se développer des équipes nationales? Est-ce que le gouvernement fédéral pourrait avoir cette légitimité-là de nous dire « Go, on vous donne les ressources pour le faire ».
Oui, écoute, moi, l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est que le Québec ait une représentation internationale dans tous les sports avec leurs équipes nationales et participer aux Jeux du Commonwealth, parce qu'on fait partie du Commonwealth, participer aux Jeux panaméricains. Mais quand est le temps des Jeux olympiques, je suis en faveur à 100%, les gars, à 100%, que le Québec joigne les rangs du Canada pour participer aux Jeux olympiques. Bien qu'il y ait 12 nations non souveraines qui participent aux Olympiques, le but, là, c'est pas de couper tout lien avec le Canada, mais que notre nation soit représentée. Et quand les Jeux olympiques arrivent, les meilleurs athlètes québécois joignent les rangs des athlètes du Canada. Puis le Canada a besoin de nous aux Jeux olympiques, 33-34% des médailles individuelles sont apportées par des Québécois, Québécoises. Alors, au point de vue financier, parce que ça va être l'autre question qui va venir, au point de vue financier, le Québec donne par année pas loin de 26 à 27 millions à Sport Canada pour les équipes nationales canadiennes. Alors, c'est de l'argent qu'on pourrait mettre de côté pour nos propres équipes nationales. Ça coûterait environ 35-40 millions par année, tout le système d'équipe nationale du Québec. Le Canada, c'est environ 100 millions. Alors, moi, je pense que Il y a des gens au Canada, il y a des gens au Canada, dans le sport, il ne faut pas oublier que le sport, il y a plusieurs, eux, c'est pas le président de l'Association sportive canadienne ou les présidents, l'objectif premier d'eux, c'est leur sport, c'est pas la politique. Et que le Québec ait leurs propres équipes en athlétisme, ça rouvre plus de portes pour des athlètes du reste du Canada pour faire équipe Canada. Même chose pour nos Québécois, ça développe plus de choses. Le tout est politique. Monsieur Legault, quand il était dans l'opposition, il y a une fondation au Québec que j'ai mise sur pied en 2013 et qui s'appelle la Fondation Équipe Québec, dont la mission est la mise sur pied d'équipe nationale du Québec. Cette fondation-là vit surtout grâce à des aides financières d'entreprises, d'individus, de particuliers, mais aussi de différents députés de l'Assemblée nationale. Alors, M. Legault, quand il était dans l'opposition, à trois reprises, là, pas par erreur une fois, là, à trois reprises, de son budget discrétionnaire, a fait parvenir des sommes d'argent à la Fondation Équipe Québec en 2017 et 2018, tout en écrivant à la main sur la lettre « Bravo ». Continuez votre effort. Alors, lui, là, on l'a rencontré, le président de la Fondation Équipe Québec, Stephen Ellinger. Stephen Ellinger, lui, c'est un fils d'immigrant suédois. Et puis, il est nationaliste, fier québécois, comme moi, comme n'importe quel autre Québécois qui est fier d'être ici, a rencontré M. Legault. Puis, M. Legault, lui avait promis que s'il prenait le pouvoir, ce serait une de ses priorités. Le Parti québécois était au courant de ça. Au mois de juin l'an dernier, ils ont fait une présentation pour fin de discussion à l'Assemblée nationale, la mise sur pied, la création d'équipe nationale du Québec. C'était refusé. Mais c'est pas Legault qui a parlé, c'est pas levé debout. Isabelle Charest, fière athlète canadienne, fière canadienne et qui ne veut pas que ses concitoyennes, concitoyens, jeunes athlètes se développent au Québec au sport. Elle a même dit que le Québec avait besoin du Canada pour se développer, ce qui est pour moi un outrage. Ça n'a aucun bon sens. Mais ça va revenir sur la table, c'est la raison pourquoi ce livre-là sort.
Oui, parce qu'en plus, excuse-moi, j'entends.
Bon, non, vas-y.
Okay. C'est qu'en plus, le projet, c'est pas comme si c'était un projet politiquement coûteux. Hein. C'est quand même un projet qui est absolument populaire. C'est-à-dire 77% des Québécois francophones le supportent. Et là, vous allez me dire, oui, mais les francophones, Samuel, attendez, 74% des Québécois au total le supportent. Ça veut donc dire que les anglophones et les communautés allophones le supportent aussi de manière disproportionnée.
Oui, ben c'est parce que eux, vois-tu, dans nos anglophones, on a des gens de l'Écosse, on a des gens qui viennent du Pays de Galles, on a des Irlandais du Nord, on a des Anglais d'Angleterre. Ces gens-là comprennent c'est quoi une équipe nationale. Ce sont tous des nations comme nous. Puis eux participent, fait qu'ils disent pourquoi pas nous ici au Québec. Sur ce même sondage-là. Il y a seulement 5% des gens qui disaient qu'ils n'en voulaient pas et un autre 5% qui n'étaient pas d'accord. On parle juste de 10% de la population non francophone qui n'en voulait pas. Seulement 10%, les gars, là. Puis l'autre 16% qui manque aux 74%, ce sont des gens qui avaient dit qu'ils n'avaient aucune idée. Alors, la population, puis les politiciens, on sait que les politiciens se basent souvent sur les sondages, c'est pour prendre des décisions, ben c'est un sondage qui était favorable à la mise sur pied de l'équipe nationale.
Pensez-vous qu'à terme, votre nouvel ouvrage pourrait devenir la pierre angulaire qui pourrait faire basculer justement le gouvernement Legault actuel ou le prochain, peu importe qui c'est, à entamer justement ces procédures de création-là? Pensez-vous que ce livre, s'il tombe dans les bonnes mains, évidemment, pourrait permettre la fondation d'équipe nationale du Québec?
Ben, c'est mon but, c'est mon objectif. faire tomber ce livre-là dans les bonnes mains. Et quand on parle des bonnes mains, on parle de mains de gens d'affaires qui ont une grande influence, dans les mains de médias qui, quand j'ai sorti, publié mon livre en 2009, à l'exception de Régent Tremblay, un petit peu Martin Leclerc et Michel Bergeron à la télévision, semblaient d'accord. Pour les autres médias, ben j'étais un pleurnichard, mais ça, je m'en fous. Mais quand je suis allé au Canada anglais avec ce livre-là, il y avait, parce qu'il a été publié en anglais, tous les médias, écoute, j'ai passé une semaine à Toronto, tous les médias voulaient me voir là-bas et me poser des questions. Et puis la maison d'édition a dit, pas de problème, mais vous devez lire le livre avant. Fait qu'il leur faisait parvenir un livre. Et puis après, j'étais questionné. Grande surprise, ils étaient tous d'accord avec moi qu'il y avait discrimination contre les hockeyeurs québécois dans la Ligue nationale de hockey. Ce que les médias n'ont jamais dit ici. Oui, les bonnes mains, c'est important. C'est important que la population sache qu'on n'a pas besoin d'être un pays pour avoir des équipes nationales et que le tout est présentement politique. Parce que les fédérations québécoises ne bougeront pas parce qu'elles sont financées à 80, 60, 70% dépendant des fédérations par le MERS, par le ministère d'Éducation, Loisirs et Sports. Alors, si le MERS leur dit, ben là, entendez-vous avec votre association canadienne. Si vous avez un problème, revenez-vous, revenez-nous. C'est au MERS de prendre ça en main, de donner carte blanche aux fédérations québécoises, de s'entendre avec les fédérations canadiennes, associations canadiennes. C'est à Sport Québec de s'entendre avec Sport Canada. Advenant le pire des pires cas que la chicane est prise, ben, le MERS n'a qu'à faire une demande. Il y a une cour internationale qui existe, le tribunal arbitral du sport, qui règle ces problèmes-là. C'est aux fédérations québécoises de faire des demandes directement, outrepasser la fédération canadienne ou association canadienne, de faire des demandes directement aux fédérations internationales, qui sont tous des entreprises privées. Et s'il y a un problème avec certaines fédérations parce que ils savent pas quoi faire avec ça, ben ce sera à la cour de décider. Moi, Gibraltar, pour donner un exemple, Gibraltar, il y a une chicane entre l'Espagne et le Royaume-Uni sur à qui appartient Gibraltar. C'est pas des farces, là. À qui appartient Gibraltar? C'est un territoire, hein? Puis le tribunal arbitral du sport a donné son jugement en disant, écoutez, là, c'est pas un problème sportif entre à qui appartient Gibraltar, entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Pour nous, leur demande devrait être acceptée par la FIFA, ce que la FIFA a fait deux mois après. Les fédérations internationales ne contestent pas ou contestent très, très, très rarement les décisions du tribunal arbitral du sport. Et le Québec étant, juste en partant, le Québec étant reconnu par l'UNESCO comme étant un peuple, une nation, géopolitiquement avec un territoire, je ne vois pas de problème avec ce tribunal-là. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Je pense que le Canada, Sport Canada et Sport Québec devraient être capables de s'entendre.
Il suffirait de tomber sur un gouvernement qui a le moindrement une volonté de le faire, autant oui. Au Québec, et un gouvernement qui n'est pas complètement opposé à la nation québécoise, à Ottawa. Voilà. Là, ça devient plus compliqué un petit peu en ce moment.
C'est certain que écoute, si Mme Marois avait été élue en 2014, il serait allé de l'avant avec l'entente entre le Parti conservateur, Stephen Harper et Mme Marois, on aurait déjà des équipes Québec junior. Il n'y aurait même pas de problème avec ça.
Donc, je me permettrai une question un peu plus personnelle cette fois-ci, juste parce que je veux vraiment entendre votre version des faits. Avez-vous subi de la discrimination lorsque vous étiez dans la LNH? Est-ce que vous en avez subi vous personnellement?
Moi, personnellement, non. Parce que, écoute, ce qui arrive dans la Ligue nationale de hockey, si tu es dans les trois premiers marqueurs de ton équipe, si tu es dans les top trois défenseurs, et puis si tu es le gardien numéro un, tu n'as pas de problème parce que tu es vraiment au-dessus d'eux autres. Mais quand on tombe dans ce qu'on peut appeler talent égal ou comparable, le Québécois passe dernier. Mais le Suédois passe aussi dernier. L'Américain passe dernier. La Ligue nationale de hockey, c'est la Ligue nationale de hockey des Canadiens anglais qui permettent aux meilleurs joueurs des autres nations d'évoluer dans leur ligue.
Parce que je me souviens avoir lu que vous avez été membre de l'équipe des All-Stars, là, l'équipe étoile de la Ligue nationale, je pense que c'est en 78, vous me corrigerez?
Oui.
Et c'est quand même assez impressionnant à l'époque, ça jouait plus rough qu'aujourd'hui un peu.
Ouais, ben j'étais le deuxième choix pêchage des Flyers de Philadelphie en 74.
Dans les années des Broad Street Bullies en plus.
Ah oui, mon premier but dans la Ligue nationale, c'est une très belle passe de Dave Schultz. Et puis, puis je dis pas ça en rigolant, là, Dave n'était pas si mauvais hockeyeur que le monde peut penser. Et mais il se battait un petit peu trop souvent, ça c'est certain. Mais ma carrière rapidement, j'ai joué 280 quelques matchs, j'ai 212 points, j'ai joué au match des étoiles, puis tout ça avec deux disques de déplacés dans le dos, je jouais avec un corset. En 1980, ben mon dos a complètement lâché avec deux ruptures de disque, la jambe gauche paralysée. Alors, ils m'ont envoyé en Suisse dans une clinique médicale dont le médecin était Michael Rutman, qui venait d'inventer la microchirurgie. Alors, grâce à la microchirurgie, je n'ai plus jamais eu mal au dos. Ma jambe, je ressens à 95% toutes les sensations dessus, mais une partie de mon nerf sciatique qui a été atrophiée, ça fait que le message de mon cerveau, ma jambe gauche, est retardé d'une fraction de seconde, ça fait que je boite un peu, patiner en boitant, mais c'est pas trop bon. Ouais.
C'est tout à ces niveaux-là. Ouais. Mais c'est quand même bien de... Vous êtes... Non. Chanceux dans votre malchance qu'en même temps, il y avait une découverte majeure en médecine. Là. Ah, ouais, ouais, au moins, ça avait été gâté.
J'ai retourné au camp d'entraînement à Washington. J'avais quand même 3 ans de contrat. Mais je me suis aperçu que je n'avais plus le même. Ma jambe gauche n'était pas aussi forte que ma jambe droite. Tu t'en aperçois rapidement. Alors, j'ai eu une offre pour aller jouer en Suisse. Je suis allé en Suisse pendant 3 ans. Ma dernière année, je me suis fait mal au dos encore une fois. J'étais en Suisse. Fait que je suis allé voir le neurochirurgien à Lausanne. Il a regardé ça, puis il m'a dit, Bob, je te l'ai dit, tu as deux choix. Tu continues au hockey ou tu finis en chaise roulante. Fait que là, j'ai vraiment pris ma retraite à 29 ans.
Et ça fait ça, se faire dire ça?
Ah oui, mais t'es sérieux, lui, là?
C'est
dans ta tête, tu te dis, bah, j'ai un corset, je suis protégé, si c'est... J'ai ça, mais lors d'un de mes derniers matchs avec l'équipe de Lugano, j'ai eu une grosse douleur au dos, ça m'a descendu dans ma jambe gauche, j'ai dit « Oups, ça va pas trop bien ». Fait que je suis allé à Lausanne, et puis il m'a dit ça, mais il me l'avait déjà dit. Fait que j'ai dit « Bon, ben là, je pense que je vais l'écouter, tu sais, il va arrêter que la tête dure, là, je vais
l'écouter. » On jouera pas avec le feu. Non, mais ça se comprend très très bien. Mais là, j'aurais, pour revenir peut-être... un petit peu plus au livre, j'avais une question pour vous.
Ouais.
Parce que là, M. Legault se refuse pour l'instant à faire l'équipe nationale. En même temps, on entend parler qu'il y a potentiellement un remaniement ministériel. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être tenté avec le nouveau livre, les sondages, le PQ qui s'empare de plus en plus de la question, de tasser Mme Charest puis d'essayer de ramener l'issue en avant? Parce que tu sais, ça fitterait avec son côté nationaliste qui se donne et qu'il dit avoir. Puis effectivement, qu'il y a passé plusieurs lois qui vont dans ce sens-là. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'avec un gars comme Justin Trudeau de l'autre bord, même s'il veut bien fort, est-ce qu'il peut, t'sais?
Ben, comme j'ai expliqué, c'est parce qu'on a des moyens de pression additionnels. S'il ne s'entend pas avec le gouvernement canadien, nous, puis le Legault d'honneur de au MELT de dire à nos fédérations, ben maintenant, c'est équipe nationale, passez outre. Ben, faites une. Tu vois, les associations et fédérations sportives canadiennes sont tous des identités privées. C'est-à-dire, ils ne relèvent pas du gouvernement.
OK, donc techniquement, le fédéral ne pourrait pas vraiment bloquer ça.
Non, ce qu'ils peuvent bloquer, c'est du chantage en disant ben, on arrête de vous financer, c'est des choses comme ça. Si vous acceptez. Bon, à partir de là, du moment que la demande, mettons que Hockey Québec fait une demande à Hockey Canada, puis la demande est refusée par Hockey Canada. Et puis Legault ne s'est pas entendu avec Trudeau, là, la merde de la poignée, puis ils sont traités de sorte de nom, là, puis Trudeau dit qu'on n'est pas une nation qui va être. Il peut même pas se permettre de dire ça. Tu sais, c'est très politique, les gars. Mais à partir de là, si le Québec a fait la demande, le Canada a refusé, le Québec fait une demande directe à la Fédération internationale de hockey sur glace. Et n'oubliez pas que nous avons beaucoup d'amis là-bas, le Québec, en partant avec la France, en partant avec tous les nouveaux pays, la Slovaquie, ces choses-là. Les Américains, sérieux, les Américains s'en foutent que le Québec soit une nation ou pas. Eux autres, là, ils vont voter avec en voyant ce que les autres pays amis avec eux font. C'est certain que la Russie...
Peut-être même par intérêt stratégique pour affaiblir l'équipe du Canada, espérer gagner plus un peu.
Ça peut être ça, mais écoute, une équipe féminine de hockey sur glace, Québec, serait dans les trois meilleurs au monde. Faut même pas se poser la question là-dessus. Tu sais, les gens... Il y a peut-être tellement de conneries que j'entends parler. Les gens, oh, si le Québec avait une équipe de hockey sur glace, on se ferait battre, tu sais, par la Malaisie. Tu sais, il y a tellement de caves qui circulent sur les réseaux sociaux que ça en est décourageant des fois, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Là. C'est juste que tu regardes ça, tu dis, mais voyons donc, c'est quoi son problème? Tu sais. Le hockey junior, c'est des montagnes russes. Certaines années, la Suède peut avoir deux, trois exceptionnels de grands talents, puis ils vont remporter le championnat junior. L'année d'après, ça peut être la Finlande. Le Canada est toujours dans la course, c'est normal. On est la grande nation de hockey sur glace. Mais le Québec, à chaque 6, 7, 8 ans, pourrait faire partie...
Un Lafrenière, un Le Cavalier...
À plusieurs reprises. Ça fait que est-ce que l'objectif, c'est de toujours gagner? Moi, je pense pas. Moi, c'est la visibilité de nos athlètes, la visibilité de notre nation qui prime en premier.
Non, c'est intéressant. Puis, tu sais, il y a un aspect aussi que les gens vont peut-être vous accuser de faire dans le nationalisme, d'essayer de pousser un agenda politique. Mais d'un autre côté, comme vous l'avez dit avant, tu sais, le sport, c'est déjà politisé. Le Canada se sert des récoltes, des médailles disproportionnées que le Québec lui rapporte pour promouvoir un nationalisme canadien. Tu sais, c'est pas comme si on inventait la roue, là. Tu sais, c'est juste.
Regarde, quand t'as les championnats, quand t'as la Coupe du monde de football, tu vois des drapeaux de toutes les nations qui y participent et même plus. Dans les fenêtres des voitures, à l'extérieur. Le sport, c'est le seul endroit où tu entends les hymnes nationaux des pays. Ça, nous manque ça, par exemple, les gars. Mais la fierté de toutes les nations, et puis là, on parle d'identité nationale. L'identité nationale, quand ton pays ou ta nation remporte une médaille, ben tout le pays est heureux, les bars sont pleins, ça crie, c'est la folie. Alors, c'est pour ça que j'ai... Il y en a qui m'ont dit, « Oh Bob, mais juste en sous-titre, projet rassembleur, marque pas identitaire, parce qu'identitaire, c'est mal vu. » Hey, je dis, écoute, le sport, c'est ça. L'identité d'une nation, c'est ça. Disons, on est avec le COVID, et puis tous ces mondialistes-là, ils veulent ouvrir les frontières partout, les fermes. Tu sais, faut revenir là, dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les faits? Et pour moi, notre identité nationale, c'est pas une affaire de tricoter serré, c'est l'identité des gens qui habitent ce territoire-là.
Un élément de redynamisation au final, là, parce qu'on parle, justement, vous l'avez dit, on est en pleine COVID, ça peut être pertinent dans les médias, notamment pour relancer une sorte d'économie qui est tournée vers le sport, tournée vers, justement, légitimement le tourisme au final, mais...
On éviterait l'exil de nos experts ben, aussi, de nos entraîneurs. On aurait pu obligé d'aller travailler en Colombie-Britannique à l'autre bout du monde pour se préparer. Ils pourraient travailler ici, au Québec.
Ben, en plein ça, mais écoute, dans les faits, j'ai perdu mon fil, excuse-moi, là. Dans les faits, l'identité nationale, parce que je suis là-dessus, là, l'identité nationale, au point de vue d'équipe nationale, ça c'est politique, c'est une chose, c'est social, mais les frontières, ça l'est aussi. Mais l'économie, les gars, parce que j'en parle très peu dans le livre de l'économie, parce que je voulais pas tomber là-dessus, parce que là, tu perds beaucoup de monde et puis il y a trop de questions là-dedans. Bon, ça coûte 35, ça coûte 35, 40 millions, c'est ça, mais je parle seulement des coûts. Mais, puis je parle un petit peu des revenus. Championnat, pour donner un exemple, le championnat du monde de hockey junior, les huit pays qui participent à ça, est-ce que vous savez que les huit se partagent les profits de ce championnat-là?
Non, je n'étais pas au courant du tout.
Là, les gars, on parle d'un million. Là. Mais là, je vous mets ça au hockey junior. Mais dans tous les sports, là, à toutes les fois qu'il y a un championnat du monde, ou à des rencontres sportives internationales, les pays, les nations qui participent, se partagent les profits à part égale. Là. C'est pas le premier reçoit plus puis le dernier reçoit moins. Là. À part égale. Hockey junior, Fédération canadienne, quand les championnats ont eu lieu au Québec puis à Toronto, à Montréal et à Toronto, deux fois de suite, c'est 8 millions qu'ils ont eu. Hockey Canada. Savez-vous comment Hockey Canada partage ça?
Non.
Par une fois, non. Une idée.
Là, vous allez comprendre ce qui se passe. Allô?
Oui, oui.
OK, c'est parce que je pensais que ça venait de couper. Alors, Hockey Canada reçoit 8 millions. Là, il divise ça au pourcentage des joueurs qui représentaient chaque province.
Ah.
Alors, si 50% des joueurs viennent de l'Ontario, ben 50% de l'argent va à Hockey Ontario. Si seulement 3%, ben oui.
Ben, c'est un avantage tellement, ça, hein? Ça fait effectivement beaucoup de sens.
Ah, c'est bien pensé, hein?
Hey, c'est plein de monde qui a décidé de ça.
Ah, ben, t'inquiète.
Ben, Hockey Canada.
Hein.
Ouais. Que, ben, oui.
Fait que là, si le Québec avait participé, ben, le Québec aurait eu 8 millions aussi.
Ben, oui, c'est ça.
Le Canada aurait eu 8 millions. Le Canada n'aurait pas donné un audit de au Québec, mais on s'en fout. On vient d'avoir 8 millions, les gars.
Ben, ouais, exact.
8 millions. On a-tu des directeurs techniques puis des enseignants qu'on peut engager à Hockey Québec pour développer nos gens?
Des écoles de hockey. Puis
non, c'est sûr.
Tout ça. Alors, c'est la même chose dans tous les sports internationaux. Fait, économiquement, le Québec participe à un championnat du monde de cricket. Tiens, je vais parler de cricket tantôt, là. aux Indes. Qu'on gagne ou qu'on gagne pas, on s'en fout. C'est le partage des revenus et pas de 4 millions par fédération. Ça peut être de 10 millions parce que le cricket, là, ça attire des foules.
De c'est des foules incroyables. L'Inde, c'est 1,2 milliard.
On peut se ramasser avec une fédération de cricket qui est plus riche que la fédération de hockey sur glace.
Vu de même.
Non, mais le sport, c'est ça. C'est que le sport, économiquement, le sport à l'international, c'est très rentable. La dernière chose que le Canada veut, c'est que le Québec se développe financièrement. Parce que là, on va s'en développer des athlètes dans dans des équipes.
Puis après, c'est leur position.
Puis en terminant, quand je parle de ça, c'est je reviens encore au défaitisme des Québécois. Quoi? Dans le monde du sport international, Il y a un classement mondial qui est créé par deux journaux sportifs européens qui classent les 194 pays, ceux qui sont membres de l'ONU, d'après leurs résultats dans tous les sports olympiques à chaque année, les championnats du monde de ski, de ci, de ça. Le Canada est 9e au monde. C'est un très beau, très, très beau classement. Mais si tu enlèves les médailles que les Québécois remportent, le Canada devient 14e et nous sommes 20e. Ça, c'est juste des 20e, les gars, sur 194, qu'on n'a pas une médaille d'équipe là, là-dedans. Là. Juste individuelle. Alors, les défaitistes qui écoutent l'émission, qui vont écouter l'émission ou qui, quand le livre va sortir, qui vont avoir toutes sortes de désavantages à ça, comme celui-là que le Québec va être dernier au monde, ben, non, on n'est pas dernier au monde, on serait à peu près 20e.
Juste glisser un dernier mot, ensuite je vais vous laisser la conclusion, M. Serrois, mais moi, quelque chose que je trouve intéressant, parce que vous dites rassembleur identitaire, et certains vous ont dit d'enlever identitaire, je suis content que vous ne l'ayez pas enlevé, parce que quand on pense au Québec, dans notre identité, moi, personnellement, je pense aux Canadiens de Montréal, les Coupes Stanley, je pense à Maurice Richard, à Jean Béliveau, à tous ces joueurs-là, Patrick Roy. C'est des personnes qui ont façonné l'identité du Québec, je veux pas, avec le sport. Et c'est dans notre identité aussi, c'est dans les valeurs que le sport véhicule.
Ouais.
C'est vraiment intéressant que vous ayez osé aller dans ce sens-là, dans le sens de l'identité. Puis, c'est vrai que pour le côté de défaitisme, le sport, ça aiderait aussi de ce côté-là. On verrait qu'on est bon, on verrait qu'on est capable d'en faire des affaires. Là, on arrêterait tout le temps se frapper sa tête en se disant qu'on est moins bon et moins fort que tout le monde.
Exact. Et puis, tu as entièrement raison. Puis pour moi, le sport, tu sais, les héros québécois, puis on revient au hockey de Maurice Richard qui a changé, qui a réveillé la nation aussi. Mais je vois aussi avec des gars comme Bruni Surin. Bruni Surin, il n'y a rien que j'haïssais de plus que le voir gagner une médaille au nom du Canada quand on sait que ce gars-là s'est développé dans les quartiers de Montréal avec Daniel Saint-Hilaire, un coach qui a été banni par Athletics Canada. Tu sais, Pascal, le boxeur, plus québécois que lui. Les gars, il allait à New York, il allait partout, il sortait avec son drapeau du Québec. Le monde se demande, c'est quoi le drapeau du Québec? C'est quoi ces fleurs de lys-là? Faut à quelque part qu'on se réveille, qu'on arrête d'être une petite nation quand on est une grande nation.
Ben écoutez, M. Serrois, je n'aurais pas pu mieux conclure que vous. Encore une fois, merci énormément d'avoir accepté cette invitation. On vous rappelle, chers auditeurs, que l'ouvrage sur lequel on a travaillé aujourd'hui, c'est Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur et identitaire que vous pourrez vous procurer en librairie prochainement ou en contactant directement M. Serrois. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aimer notre page Facebook. Vous pouvez également aller sur l'agenda.ca pour en savoir davantage. Et sur ce, au prochain épisode. Au revoir.
Merci beaucoup, les gars.